Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume numéro 126, Cantique des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Néguèb. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Et nous lirons un deuxième texte qui fait écho pour certaines parties de ce psaume dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, les versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Avez-vous déjà vu une mouche dans un bocal fermé? Si vous avez déjà vu une mouche dans un bocal fermé, elle ne peut pas voler bien loin. Elle se cogne contre les bords du bocal. Elle ne peut pas aller loin. Elle ne peut presque rien faire, en fait. Eh bien, si le Saint-Esprit ne nous délivre pas de notre bocal du péché égoïste, orgueilleux et incrédule, nous serons comme cette mouche dans un bocal fermé et ne pourrons pas aller explorer et ne nourrir la parole de Dieu. Alors, c'est ma prière ce matin que personne ici ne reste enfermé dans son bocal, mais qu'il soit libéré, conduit par le Saint-Esprit pour recevoir cette parole de Dieu. Parce que je peux parler de la Bible hein, autant que je le veux, si l'Esprit de Dieu n'agit pas dans nos cœurs, c'est peine perdue. Nous sommes totalement dépendants de lui. Donc nous comptons sur lui. Et il est vivant, il agit, et nous nous en réjouissons. Il peut nous arriver que nous soyons tristes, ça vous arrive, que tout semble lourd, difficile, que la joie fait défaut. Et c'est à ce moment-là que le psaume 126 peut nous être profitable. C'est un psaume qui nous invite à regarder les délivrances passées pour nous réjouir des délivrances futures. C'est un psaume qui reconnaît l'œuvre de Dieu et qui ainsi conduit à la reconnaissance et à la joie. C'est un psaume dans lequel il n'y a qu'une seule demande. On a vu un autre psaume dans le psaume des montées qui n'avait même pas de demande, c'était que des affirmations. Dans ce psaume ici, il y a au milieu une demande. Éternel, ramène les captifs comme les torrents du Néguèb. Et ce psaume nous donne ensuite une promesse. Après les larmes, ce sera la joie. Ce psaume est écrit pour remplir le pèlerin d'espérance sur son cheminement vers la Jérusalem céleste. Voici pourquoi la prédication a pour titre « Le pèlerin rempli d'espérance ». Et nous allons suivre l'enseignement du psaume simplement en suivant le psaume en trois parties. Nous aurons les versets 1 à 3 qui nous emmèneront dans ce que j'ai appelé « L'espérance se nourrit des délivrances passées ». L'espérance se nourrit des délivrances passées. Ensuite, le verset 4, au milieu de ce psaume, nous parle de l'espérance qui se confie en l'Éternel pour les captifs. Et la fin du psaume, les versets 5 et 6, l'espérance voit plus loin que la peine présente. Donc commençons par cette première partie, l'espérance se nourrit des délivrances passées. On pourrait dire c'est le regard vers le passé. Et relisons ces trois premiers versets du psaume 126, Cantique des montées. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche riait de joie Et notre langue poussait des cris de triomphe. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Que s'est-il passé? Eh bien, le terme de captif du verset 1, dans notre version Colombe, traduit dans la seconde 21, les déportés, serait nous fait directement penser au retour de l'exil, ce qui n'est pas une mauvaise idée. On peut et on va parler d'ailleurs de ce retour de l'exil. Mais le terme utilisé dans ce verset 1 n'est en fait, si on prend le terme hébreu, n'est pas le terme captif, mais c'est le terme restauration, un terme qui veut plutôt dire restauration. Ce qui en fait ouvre beaucoup plus ce psaume que seulement pour le retour de l'exil. On pourrait dire quand l'Éternel ramena la restauration en Sion. Cela peut être donc compris pour toutes les délivrances du peuple de Dieu, toutes les restaurations. Et il est question d'ailleurs d'une restauration dans les mêmes termes que nous trouvons dans le livre de Job. Connaissez Job, hein, connaissez l'histoire de Job. Eh bien, dans Job 42:10, à la fin du livre de Job, quand il a été restauré après ses tribulations, il est écrit « L'Éternel rétablit la situation de Job ». C'est les mêmes termes qui sont utilisés dans ce psaume ici, 126. « L'Éternel rétablit ». Et le pèlerin, dans ses chants du psaume, puisqu'il les chantait régulièrement en fait, se souvient des délivrances passées, des grandes choses que l'Éternel a faites. Et revenons tout de même, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au retour de l'exil. Le retour de l'exil est un fait très étonnant, en fait. C'est un fait extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que personne n'a mis en place une stratégie humaine pour le retour du peuple qui était en exil? Il n'y a pas eu de combat, de complot ou de rébellion. Rien de tout cela. C'est Dieu lui-même qui réveilla le cœur de Cyrus pour faire revenir le peuple comme il l'avait annoncé par Ésaïe des dizaines d'années auparavant, alors que Cyrus n'était même pas connu. Nous voyons dans Ésaïe 44:28 ce texte. Je dis à Cyrus, donc c'est des dizaines d'années avant, je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Avant même la destruction de Jérusalem. Vous avez vu les enfants, il y avait quelque chose à remplir là. Hein? Donc personne n'a mis en place une stratégie humaine pour permettre le retour de l'exil. Pas de combat, de complot, de rébellion. C'est Dieu lui-même qui réveilla le cœur de Cyrus et qui, en quelque sorte, envoya le peuple pour retourner dans son pays. Et Jérémie l'annonçait aussi en disant que 70 ans après la déportation, il reviendrait. Et 70 ans plus tard, le roi qui était désigné par son nom, comme on l'a vu, va agir. Et voici ce qu'il est dit dans 2 Chroniques 36, verset 22. Cette fois-ci, on parle de ce qui s'est passé. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous appartient à tout son peuple? Que l'Éternel soit avec lui et qu'il monte. C'est comme ça, en fait, que Dieu a ramené son peuple. C'est quelque chose de totalement, presque dire, inattendu. Exceptionnel. Et le peuple exilé peut retourner dans son pays, même s'il n'a rien demandé, rien payé. Donc les préparatifs se font, ils font tout ce long voyage. Hein. Certains ont voyagé la semaine passée, donc ils font un voyage au moins aussi long que vous. Bon, c'est pas de voiture, donc c'est un peu différent. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ça s'est bien passé, le voyage s'est bien passé, et ils se retrouvent 70 ans après, de là où ils avaient été déportés. Et plusieurs, en fait, étaient dans cette situation, se disaient, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je ne suis pas dans un rêve, en train de rêver que je suis revenu à Jérusalem? Pincez-moi, hein? Des fois, c'est comme un rêve, en fait. Hein? Quelqu'un disait un jour, en vivant quelque chose de merveilleux, est-ce un rêve? Si c'est un rêve, laissez-moi dormir, ne me réveillez pas maintenant. Mais les délivrances de l'Éternel ne sont pas des rêves. Ce sont des réalités qui ne disparaissent pas avec le sommeil. Quand le sommeil disparaît, les rêves disparaissent. Alors que quand le sommeil disparaît, les délivrances de l'Éternel ne disparaissent pas. On peut penser à la sortie d'Égypte, à la délivrance des Madianites par Gédéon, la fuite des Syriens assiégeant Jérusalem pendant le temps d'Élisée, peut-être vous vous souvenez. Les Assyriens ont entendu une grande armée, ils n'ont rien fait, hein, les Judéens, ils n'ont rien fait. Ils ont entendu une grande armée, ils sont partis. L'Éternel a intervenu. Et plusieurs disaient, pincez-moi pour voir si c'est vraiment vrai. Hein. D'ailleurs, un ne voulait pas le croire. Et il a simplement vu, malheureusement, il n'a pas survécu à cette situation. Plus tard, le camp assyrien assiégeait Jérusalem du temps d'Ézéchias. Situation dramatique, où en fait, le peuple n'avait aucune chance. Et en une nuit, l'Éternel frappa 185 000 hommes. L'Éternel délivre. Toutes ces délivrances sont des situations où le peuple, en fait, n'a pas agi, où son action, en fait, ne pouvait pas le sauver. Et toutes ces délivrances, et tant d'autres encore qui sont réelles, sont en fait des images, des types d'une délivrance plus grande encore. La délivrance du péché que le pèlerin qui chantait le psaume 126 espérait, mais qu'il ne connaissait pas encore comme nous le connaissons maintenant. Car Jésus est venu accomplir l'œuvre de rédemption. Et son œuvre est si parfaite, si grande, si merveilleuse, que lorsque nous prenons le temps de la considérer, nous avons de la peine à croire qu'il a fait tout ça et que cela me concerne. Cette dernière délivrance en Jésus-Christ dépasse toutes les autres que nous trouvons dans la Bible et au cours de l'histoire de l'Église. Cette délivrance en Jésus-Christ, comme toutes les autres, a été accomplie par l'Éternel et l'Éternel seul. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, était-il dit au verset 3. Et nous pouvons dire la même chose. C'est lui qui a envoyé son Fils sur la terre. Personne parmi les hommes n'a dit à Dieu, envoie ton Fils sur la terre. Non, c'est lui-même qui a pris l'initiative d'envoyer son Fils. C'est Jésus seul qui a vécu une vie parfaite, qui s'est laissé clouer sur la croix comme le plus vil des brigands. Ce Dieu venu sur terre a choisi de vivre cela. Il l'a fait sans qu'aucun homme lui ordonne de le faire. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel où il siège et d'où il reviendra pour juger le monde. Est-ce que nous sommes conscients de ce que signifie l'œuvre de l'Éternel en Jésus-Christ? Oh, souvent on doit prendre du temps pour se rappeler de ce que Christ a fait. Sommes-nous conscients que sans lui, nous sommes condamnés pour l'éternité à souffrir en enfer? Sommes-nous conscients que sans lui, il n'y a aucun espoir de pardon, de réconciliation et de paix même dans toutes nos relations? Sommes-nous conscients que sans salut, nous n'avons aucun sens véritable à notre vie? Sommes-nous conscients qu'il est impossible d'être libéré de l'esclavage du péché sans Jésus-Christ? On doit s'en souvenir, hein, parce que parfois on n'en est plus vraiment conscient. Et quand on n'en est plus vraiment conscient, on n'en est plus émerveillé, parce qu'on ne se rend pas compte de cette œuvre. Oh, que nos cœurs soient remplis, ça c'est ma prière, pour moi-même et pour vous, que nos cœurs soient remplis de compréhension du salut en Jésus-Christ, de l'Évangile. Et je vous assure, mes chers frères et sœurs, lorsque vous commencez à saisir l'œuvre de Jésus-Christ, vous dites, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme un rêve. Est-ce que vraiment il l'a fait? Est-ce vraiment possible? Et si la compréhension du salut produit ce genre de choses, quelles conséquences sont présentées par le psalmiste pour une grande délivrance? Nous les voyons au verset 2 et 3. La première qui est répétée dans les deux versets, c'est la joie. En fait, pour certains, ce sera un souvenir. C'est une illustration que je vous dis maintenant. Certains, c'est un souvenir. Pour d'autres, il faudra imaginer que vous avez le bras dans le plâtre. Peut-être que vous n'avez jamais eu, tant mieux. Ceux qui l'ont eu, vous pouvez vous en souvenir. Vous pouvez plus bouger le bras pendant des semaines. Au moment où on enlève le plâtre, c'est une délivrance qui fait plaisir. Petite joie. Mais on commence à comprendre que quand on est libéré de quelque chose, ça a un impact sur notre vie. Pour certains, dans une finale de foot ou de hockey, par exemple, ça devient une grande épreuve lorsque son équipe que l'on supporte gagne de un but à quelques minutes de la fin et que l'autre équipe est en train de presser pour marquer le but égalisateur. Et quelques minutes après, la sirène sonne, c'est la libération et c'est la joie. Et je vous assure, hein, c'est la joie. C'est les cris de triomphe. De nouveau, pour nous aider à nous rendre compte que lorsqu'on est libéré de cette tension, c'est la joie. Une autre illustration, nous entendons parfois, par la mission Porte Ouverte, le récit de frères et sœurs qui sont emprisonnés, parfois durant de longues années. Imaginez lorsque la porte de la prison s'ouvre et qu'ils peuvent sortir librement. Quelle joie pour les membres de leur famille qui les attendaient. Quelle joie pour eux de sortir, d'être libérés, d'être délivrés. Être libéré produit de la joie. C'est vrai que tout le monde ne l'exprime pas de la même manière. Certains sont plus exubérants que d'autres. Mais l'observation dans le sport m'a montré que les plus austères ne manifestent souvent pas leur émotion, parce qu'ils choisissent de les réfréner. Et en fait, je l'ai souvent vu, lorsqu'ils n'arrivaient plus à la réfréner, ou qu'ils ne pensaient plus à leur image. Et là, tout à coup, la joie sortait. En fait, une délivrance, une libération, produit toujours de la joie. Ça signifie que toute personne qui est joyeuse manifestera, généralement par un large sourire, par le rire, peut-être par le chant, ou peut-être des cris de joie. Ben voilà, ça dépend. Mais il y a une réaction, ça nous touche lorsque nous sommes conscients d'être libérés. Et là, la question que j'aimerais nous poser ce matin, avez-vous déjà eu la joie d'être libéré de la mort éternelle, de l'esclavage du péché, de la séparation d'avec Dieu? Avez-vous déjà été joyeux pour votre salut? Généralement, quand on le découvre, quand on découvre cette libération que l'on a en Jésus-Christ, mais c'est la joie qui nous remplit. Ah, oh, puis je souhaite en fait qu'elle continue à nous remplir. Et pour qu'elle continue à nous remplir, eh bien nous avons besoin de nous en souvenir, de nous la rappeler. Et c'est exactement ce qui est fait au psaume 126. Ils se souviennent des délivrances passées où ils étaient pleins de joie pour qu'ils continuent à saisir cette joie. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la même intensité de joie. C'est vrai. Et ce n'est pas grave. Mais ça nous touche. Et bien souvent, et je l'ai vu dans les vies des personnes et dans ma vie aussi, que la joie devient plus profonde. Devient en fait même plus stable, on dirait. Plus on avance dans cette compréhension de l'œuvre de Christ dans nos vies. Mais si vous n'avez jamais eu cette joie de la libération du péché, eh bien vous devez vous poser, est-ce que vous êtes sauvé? Posez la question, est-ce que vous êtes sauvé? Avez-vous vraiment saisi l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ? Parce que lorsque nous saisissons l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ, nous sommes touchés dans tout notre être. Et la joie entre réellement dans nos cœurs. Et comme je l'ai dit, nous sommes conscients que cette joie a besoin d'être ranimée par le rappel. Comme un feu, si vous n'y mettez pas du bois régulièrement, il s'arrête. Eh bien, la joie de l'Évangile, c'est la même chose. Si nous ne la rappelons pas régulièrement, la joie diminue et s'arrête. Mais il y a une deuxième conséquence. La joie est une conséquence, c'est vrai, des délivrances. Mais il y a une deuxième conséquence dans ce texte que je trouve particulièrement belle. La deuxième conséquence des grandes délivrances de l'Éternel, c'est que l'on dit parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Regardez les enfants dans votre papier là. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est le témoignage de ceux qui ne croient pas en Dieu. Comme par exemple les peuples en Canaan qui témoignait, qui s'était même rendu compte que l'Éternel avait fait sortir le peuple d'Égypte. Rab le dit aux espions. Nous sommes ici tous conscients que l'Éternel a fait des grandes choses pour vous. Alors s'il est vrai que le monde entier ne reconnaît pas encore l'œuvre de salut en Jésus-Christ, cela viendra. Cela viendra un jour, le jour de la gloire de Christ, où tout genou fléchira devant lui. Mais déjà maintenant, plusieurs peuvent voir les effets de la transformation de la vie de croyants. Et le témoignage est particulièrement percutant lorsque les personnes transformées soulignent que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas leur œuvre. Ce n'est pas moi qui ai réussi à me sortir de cette situation. C'est Dieu. C'est lui. Je pense par exemple à Paul Fontaine qui témoigne avoir été délivré de l'alcool par Dieu. Ou encore Philippe de Courroux qui a été délivré de la pornographie par Dieu, pour des exemples publics. Roland nous parlait jeudi soir d'un frère à Mulhouse qui est devenu chrétien, et un collègue a tout de suite remarqué que du jour au lendemain, il ne jurait plus. Il n'abusait plus d'alcool. Il voulait la même chose que cet homme avait trouvé. Le témoignage de ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Il y a aussi ceux qui demandent pardon lorsqu'ils commettent une faute envers les autres, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Ou celui qui jouait à des jeux d'argent en cherchant à amasser des biens et qui maintenant est généreux. Ou celui qui maltraitait sa femme et ses enfants et qui maintenant en prend soin avec amour. C'est vrai que parfois, peu de gens voient cela. Mais ceux qui le voient peuvent témoigner de l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et n'oublions pas, pour chaque étape de notre cheminement vers la maturité, parce que même chaque étape du cheminement vers la maturité est encore une œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire simplement, il n'y a qu'une fois dans la vie où Dieu œuvre dans mon cœur ou dans ma vie. C'est seulement lors de la conversion. Après, il n'y a plus rien. Mais non, il continue. Puis chaque fois qu'on progresse avec lui, c'est encore son œuvre. Et là, que nous puissions faire même dans chacune de ces étapes, comme le psalmiste, de dire, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Vous savez pourquoi il écrit cette phrase dans le psaume 115? C'est parce que si on ne dit pas que c'est Dieu qui agit, ben les nations, souvent, ne vont même pas reconnaître que c'est l'Éternel. Ils diront, mais il est où? Alors que si nous disons que c'est Dieu qui agit dans notre vie, puisque c'est réel en plus, elles pourront simplement constater que Dieu agit. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Le pèlerin nourrit son espérance en se rappelant les délivrances du passé. Et c'est ce que nous avons vu dans les versets 1 à 3. Mais le pèlerin n'a pas seulement un regard vers le passé, il a également un regard dans le présent. Il se rend compte, en tout cas pour ma part, ça m'arrive, qu'il est parfois sec et qu'il a besoin d'être arrosé. Il voit que d'autres sont encore captifs et il désire leur délivrance. Que fait alors le pèlerin ? Il prie. C'est notre deuxième point. L'espérance se confie en l'Éternel pour les captifs. Nous avons eu un regard vers le passé, un regard vers le présent ici, au verset 4. Regardez avec moi dans vos Bibles, verset 4. Éternel, c'est une prière, hein? Éternel, ramène nos captifs comme des torrents dans le Néguev. Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui ont besoin d'être déchargés d'un lourd fardeau et d'une conscience chargée? Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui ont besoin d'être déchargés? Y a-t-il encore des personnes captives par leur péché, sous la tyrannie d'un maître qui cherche leur mort éternelle? Et d'ailleurs, ces personnes sont souvent inconscientes, car leur maître est leur roi pour cacher la vérité. Connaissez-vous des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne sont pas sauvés pour l'éternité? Est-ce que vous en connaissez? Combien? En fait, tous les doigts de nos mains et de nos pieds ne suffisent pas pour les compter. Oui, il reste des captifs. Que Dieu nous donne un cœur de compassion pour les âmes qui se perdent, pour les captifs autour de nous. Et que faire lorsque nous connaissons des captifs? Eh bien, prier. Celui seul qui peut délivrer les captifs. S'adresser au Créateur, au divin Rédempteur. Parce que Dieu peut encore délivrer aujourd'hui. Il est écrit, la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Tout est possible à Dieu. Vous vous souvenez des disciples, quand Jésus parlait du riche, c'est très difficile d'être sauvé pour un riche. Il dit, mais alors c'est impossible. Qu'est-ce qu'il répond Jésus? C'est impossible aux hommes. Mais rien, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'arrête sa volonté. Il fait tout ce qu'il veut, tout. Est-ce que vous avez déjà vu les barrières des jardins de vos voisins? Alors si la barrière du jardin de votre voisin est défraîchie, est-ce que vous allez simplement les poncer, les repeindre? C'est ça que vous faites? Si vous avez cette intention, vous allez demander au voisin. Vous n'allez pas le faire sans demander. Vous allez lui demander, est-ce que je peux t'aider ou bien est-ce que je peux repeindre tes barrières, puisque je vois qu'elles sont défraîchies. Eh bien, faisons de même face à ceux qui sont captifs. Nous allons d'abord vers le propriétaire. Alors, je ne parle pas de celui qui se fait passer pour le propriétaire et qui est un imposteur, donc Satan, bien entendu. Mais vers celui qui a créé chaque personne et qui en est le véritable propriétaire. Saviez-vous que Dieu était le propriétaire de chaque personne sur toute la terre? Et nous pouvons aller vers lui et offrir nos services qu'il utilisera pour sa gloire. Bien entendu, nous faisons partie de son œuvre. Et là, je vais vous dire une phrase qu'il est bon de rappeler, de vous rappeler toute votre vie, au moment où vous priez. Demander à l'Éternel d'intervenir, c'est être prêt à agir. C'est très court, vous pouvez méditer sur cette phrase. Demander à l'Éternel d'intervenir, c'est être prêt à agir. Car nous faisons partie des outils utilisés par Dieu pour venir au secours des captifs. Nous ne sommes pas des personnes qui simplement attendent. Celui qui dit « Seigneur, interviens » et qui n'est pas prêt à agir, est un hypocrite. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, allez par toutes les nations, faites des disciples. Par exemple, il est certain que comme le pèlerin du psaume 126, nous souhaiterions que l'Éternel ramène les captifs comme les torrents du Néguèb. Bon, il faut déjà qu'on comprenne ce que ça veut dire, on va le voir. Mais bien plus souvent, Dieu ramène les captifs comme une moisson. On y reviendra tout à l'heure. Mais réfléchissons un instant à ces torrents du Néguèb. Alors, il est vrai qu'en habitant à Neuchâtel, il n'y a pas beaucoup de régions qui s'appellent Néguèb dans la région ici. Donc on ne comprend pas trop ce que ça signifie. Le Néguèb ou le Néguèv, hein, c'est la même région, en fait est une région désertique au sud de Juda. Un lieu sec, un lieu aride, comme cela peut être le cas dans nos vies d'ailleurs. Ce lieu mort peut être rapidement transformé en un lieu de vie. Et un commentateur dit ceci, je vous lis ce qu'il nous dit parce qu'il le dit assez de manière condensée. Il dit, il existe peu d'endroits qui soient plus secs que le Néguev, ni de transformation plus dramatique que celle d'un wadi, donc c'est une rivière, hein, d'un wadi sec en torrent. Tel peut être l'effet d'une forte pluie qui peut aussi en l'espace d'une nuit transformer le désert environnant en un parterre d'herbes et de fleurs. En une nuit. Et le psalmiste exprime exactement ce que nous désirons ardemment. Une transformation rapide et spectaculaire. C'est ça la prière ici. Éternel, ramène nos captifs comme les torrents du Néguèb. Hein? C'est ce que nous désirons, vous avez vu les enfants là. Hein? Une transformation rapide et spectaculaire. Éternel, ramène les captifs comme les torrents du Néguèb. En une nuit, il y a de l'herbe et des fleurs. Magnifique. Dieu peut le faire. Et il le fait parfois, c'est vrai. Mais le plus souvent, il agit en faisant pousser la semence lentement. Et cette semence est mise en terre par un semeur. Le pèlerin du psaume 126, même s'il prie sincèrement et de tout son cœur pour une transformation rapide et spectaculaire, sa prière, c'est pas un... Oh, ça me dit en anglais, un fake. Ouais, c'est pas une supercherie, merci. Donc c'est réel, cette prière. Mais il ne fixe pas son espérance là-dessus. Il ne fixe pas son espérance sur les torrents du Négueb, mais sur la moisson qui suit l'ensemencement. Vous voyez? Donc le psalmiste, bien sûr qu'il désire cela. Mais son espérance, ce n'est pas dans les torrents du Négueb, c'est dans la moisson qui va suivre les semailles. Et nous arrivons donc à notre dernier point. L'espérance du pèlerin qui voit plus loin que le présent. Regard vers le futur. On a vu le regard vers le passé, vers le présent et vers le futur. Verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre s'en revient avec cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Alors pour moissonner, il faut semer. Évidemment. Sans semence, pas de moisson. Vous avez vu les enfants, hein? Sans semence, pas de moisson. Or, comme nous sommes au printemps, certains ont commencé à faire des plantons. Vous avez commencé à faire vos plantons. Je sais que plusieurs font des plantons de tomates, par exemple, pour n'en citer qu'une. Mais si vous n'aviez semé aucune graine, aucune, est-ce que des plants de tomates auraient poussé? Mais non, bien entendu. Il faut semer les bonnes graines au bon moment. Certains font-ils des plantons de courges? Vous connaissez les courges, hein? Bien, les courges ont des graines. Et les graines de courges sont délicieuses. Vous pouvez les griller, par exemple, ou les sécher. C'est excellent. Pourquoi enlever les graines de courges de notre bouche pour en faire des plantons? Franchement, c'est bon à manger. Pourquoi les mettre en terre? Vous savez, dans le contexte du retour de l'exil, pour revenir un peu dans ce contexte du retour de l'exil, les agriculteurs n'avaient pas beaucoup de blé. Combien fallait-il en garder pour faire du pain et vivre? Et combien fallait-il en jeter en terre? Et celui qui n'avait pas beaucoup et qui jette le grain en terre se demande s'il ne fait pas une erreur, s'il n'ôte pas le pain de la bouche de sa famille. Quel gaspillage pourrait-on dire? Et il peut arriver qu'il peut le faire avec larmes. En tout cas, il est parlé ici de larmes. Or, il est vrai que pour ma part, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer en semant. Peut-être vous, hein, mais moi, j'ai pas vu ça. Par contre, j'ai vu les efforts, parfois les douleurs de ceux qui entretiennent leur jardin potager pour avoir de quoi se nourrir. Semer demande un effort, une persévérance ensuite dans l'arrosage, dans le désherbage. Vous savez, dans notre tendance naturelle, c'est que nous désirons moissonner facilement, sans effort, sans discipline, sans difficulté, sans douleur. En fait, on aimerait que les captifs soient ramenés comme les torrents du Négev, point. Mais le psalmiste, même s'il demande à Dieu de ramener les captifs comme les torrents du Négev, reconnaît en même temps la vérité des semailles et des récoltes, et il ne s'en indigne pas. Car il sait qu'un homme moissonne ce qu'il sème. Et la moisson, d'ailleurs, sera proportionnelle à la semence, comme il est dit dans 2 Corinthiens 9,6. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Vous savez, à l'église réformée baptiste de Neuchâtel, nous sommes dans un temps de semence. Il est temps de semer, mes chers frères et sœurs. C'est vrai que le terrain est dur et que le travail peut être difficile. Mais l'Éternel nous fait une promesse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Êtes-vous prêts à semer avec l'espérance de la moisson en son temps? Sommes-nous prêts à persévérer malgré le temps de pousse qui peut paraître long? Voulons-nous arroser par nos prières ce que nous semons? Pouvons semer dans nos foyers, dans l'église, en lisant régulièrement la parole de Dieu, demandant à l'Esprit de nous guider. Pouvons semer en vivant consciemment selon Dieu et n'hésitant pas à parler en bien de ces balises de la loi de Dieu qui sont utiles pour notre famille et ailleurs. Pouvons semer en donnant de la littérature qui parle de Dieu et de sa parole. Pouvons semer en mettant des affiches qui dirigent vers Dieu. Nous pouvons semer en mettant sur Internet des prédication de l'Évangile et en diffusant ces liens. Nous pouvons semer en vivant une vie intègre et en expliquant parfois que cela vient de Dieu et que l'on puisse s'efforcer en lui, dans sa parole. Pour semer dans la vie des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Il y a quantité de possibilités pour semer la parole de Dieu, mais il faut être conscient que cela a toujours un coût. Les semailles et le soin donné aux cultures ne sont jamais faciles. Et nous comptons totalement sur l'œuvre de Dieu qui fait croître. Car personne d'entre nous n'a le pouvoir de faire pousser quoi que ce soit. La croissance d'une plante, comme la croissance de la foi, vient de Dieu. Ça, c'est vrai. Par contre, nous arrosons, nous binons, nous sarclons, nous bêchons, nous labourons, nous désherbons. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans nos vies également. Car ainsi, la moisson promise sera fructueuse. Qui oserait en fait en vouloir à Dieu s'il ne désherbe jamais son jardin, qui est totalement envahi des mauvaises herbes, et en fait qu'il ne récolte d'aucun légume ou de tout petits légumes? Est-ce qu'il oserait vraiment en vouloir à Dieu? Qui oserait en vouloir à Dieu s'il jette de la semence sur une terre dure et que les oiseaux sont venus la manger? Nous n'oserions pas. Il faut mettre la semence dans une terre préparée, parfois même couvrir. Parce que bon, certains oiseaux vont même chercher dans la terre. Hein. Ça arrive, vous avez peut-être déjà vu ça dans vos jardins. Bien que Dieu nous vienne en aide pour semer avec persévérance. Car il est écrit que celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec des cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Jésus dit en Jean 16, 20, que nous avions vu ensemble l'année passée, « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. » Alors là, il parlait lorsqu'il allait mourir, en fait, hein, comme une graine qui va en terre, et ensuite ressusciter. Parce que Jésus, c'est le prémisse de la résurrection, de toutes les autres résurrections. La tristesse changée en joie. Lorsqu'après avoir semé, arrosé, désherbé, vous voyez pousser un germe dans le sol, c'est déjà une promesse de récolte. Mais lorsque vous vous trouvez face à un plant de tomates rouges prêtes à être mangées, là c'est la reconnaissance et la joie. Celui qui va acheter ses tomates au magasin n'a plus cette compréhension en fait. Il croit que tout lui est dû, qu'il suffit de payer. Mais vous pouvez payer la terre autant que vous voulez, rien ne poussera. Rien ne poussera. Et vous pouvez payer la terre autant que vous voulez, si vous ne semez pas, et que Dieu ne fait pas croître, rien ne poussera. Si Dieu fait pousser, ce n'est pas à cause de votre argent, mais de sa puissance et de sa grâce. Vous savez, les conversions ne peuvent pas s'acheter au magasin, ni ailleurs d'ailleurs. Cherchons donc à semer et arroser comme Paul l'a fait à Corinthe avec Apollos. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son labeur. 1 Corinthiens 3, 6. Et vous connaissez ce texte de Romains qui dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, tous ces captifs? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si vous voulez témoigner par votre vie, c'est très bien. Mais il faut aussi la parole. Et la vie sera bien sûr un appui sur ce que nous disons. Et j'aime cette promesse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. La moisson est assurée. Les élus seront sauvés. Vous pouvez noter les enfants, les élus seront sauvés et Dieu utilise la semence et l'arrosage que nous sommes tenus de faire. Vous voyez, là tout se tient. C'est ce qu'on n'arrive souvent pas à bien faire tenir, hein, mais les élus seront sauvés, c'est une œuvre de Dieu. Et Dieu utilise la semence et l'arrosage que nous sommes tenus de faire. Voyons pour notre encouragement une image de la moisson qui est donnée dans 1 Corinthiens 15. Le Saint-Esprit par Paul nous parle de la moisson du corps nouveau, après la semence corruptible du corps que nous avons. 1 Corinthiens 15, 42, il est dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semée corruptible. » Donc ça c'est nos corps qu'on a maintenant, hein, que vous avez et que j'ai. Il est corruptible ce corps, je crois que vous le savez. « Semée corruptible, on ressuscite incorruptible. Semée méprisable, on ressuscite glorieux. Semée plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semée corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et c'est vrai que nous avons un corps qui dysfonctionne plus ou moins selon l'âge, les capacités reçues et entretenues. C'est un corps qui est corruptible, mais qui va disparaître, comme la semence. Et la moisson, le fruit de cette semence, sera un corps incorruptible, qui ne va jamais mourir, glorieux, plein de force. C'est difficile d'imaginer ce nouveau corps qui sera autre, il sera spirituel, c'est vrai. Mais il sera parfait, plein de force. Cela nous rappelle avec force que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Ce psaume 126 parle de contraste. Il parle de joie, il parle de larmes, que nous pouvons même vivre en même temps. Nous pouvons déjà être dans la joie de l'œuvre de délivrance accomplie par Jésus-Christ. Nous nous réjouissons de son application totale qui est à venir. Mais nous sommes aussi encore bien souvent dans des temps de larmes. Des larmes qui sont parfois dues à nos péchés. Des larmes de repentance face à notre péché. Des larmes face à la dureté lors de l'annonce de l'Évangile. Des larmes en semant. Mais nous savons que la moisson suit les semailles. Même si le temps d'attente peut paraître long. Souvent on sème en automne, il y a tout un hiver. C'est au printemps que ça pousse. Alors quand on est dans l'hiver, c'est pas facile. C'est vrai, ça paraît long. Mais toujours après les semailles, il y a la moisson. Voulons-nous chacun semer pour la gloire de Dieu, avec les moyens, les capacités que Dieu nous donne, afin que beaucoup viennent à Christ? Est-ce que nous voulons vraiment cela? Ici à Neuchâtel, enfin Peseux et région, nous moissonnerons en église ce que nous sèmerons en église. Après les semailles, ce sera la moisson, cela est certain, car l'Éternel fait de grandes choses et il le fait en nous donnant au final toujours la joie. Le pèlerin rempli d'espérance se nourrit des délivrances passées. C'est important de parler de ce que Dieu a fait et de ce qu'il continue à faire dans nos vies. Le pèlerin rempli d'espérance se confie en l'Éternel pour les captifs et il ose lui dire « Éternel, ramène nos captifs comme les torrents dans le Négeb. » Mais oui, disons-le, demandons-lui. Et le pèlerin rempli d'espérance voit plus loin que la peine présente. Oui, c'est vrai qu'il y a des larmes. Oui, c'est vrai que c'est difficile parfois et bien souvent. Mais il est dit: celui qui s'en va en pleurant quand il porte la semence à répandre, s'en revient avec des cris de triomphe quand il porte ses gerbes. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, devant ce psaume contrasté qui nous fait passer de la joie de tes œuvres fantastiques au temps de larmes dans les semailles, au temps où nous voyons encore d'autres captifs qui sont en train de parfois même s'éloigner de toi, des personnes qui nous sont proches, que nous aimons. Seigneur, nous voulons, comme ce psalmiste, comme tous les pèlerins qui chantaient ce psaume 126, te dire: Éternel, ramène nos captifs comme les torrents du Négeb. Oh, nous te prions de transformer, nous te prions, Seigneur, de pardonner. Nous prions d'appliquer par ton esprit l'œuvre de Christ dans tous ceux qui sont autour de nous, dans nos frères et sœurs, dans de sang, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, nos parents, nos cousins, nos oncles et tantes, nos grands-parents, nos enfants, petits-enfants, ceux qui nous sont proches, Seigneur, qui sont captifs. Oh, nous te prions qu'ils puissent être délivrés. et que Seigneur, ils puissent avoir la joie de la délivrance en toi. Ô Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont autour de nous, que nous côtoyons, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne voyons simplement, que nous voyons simplement en prenant le bus ou en allant dans le magasin. Seigneur, tu peux encore agir aujourd'hui. Et je te prie vraiment d'agir dans ta grande puissance. Mais premièrement, j'aimerais te prier vraiment de nous réveiller, que nos cœurs, à chacun ici, puissent saisir tes œuvres, puissent retrouver la joie pour ceux qui l'ont peut-être perdue, puissent, Seigneur, saisir cette grâce par la foi. Ô Seigneur, nous ne voulons pas faire des ambiances qui donnent la joie, parce que ces ambiances qui donnent la joie donnent une joie qui disparaît, et qu'on essaye de rattraper et qu'on n'aura jamais plus. Seigneur, nous te prions pour une joie qui est réelle. Parce que nous saisissons l'œuvre de Christ, que nous pouvons saisir chaque jour à nouveau. Et j'aimerais te prier de nous donner cette joie de la moisson. Donne-nous, Seigneur, de semer ensemble aussi, les uns dans, et les autres dans les situations où tu nous places. Aide-nous à supporter les larmes, ô Seigneur. Tu vois que souvent, quand c'est difficile, on arrête. Te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons persévérer, même dans les larmes, parce que nous savons que tu es un Dieu qui nous dit clairement dans ta parole, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Et nous nous en réjouissons par avance. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.